Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean-Claude Ponsou du ministère La Foi Victorieuse. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de partager avec vous un message particulier que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et j'ai l'assurance et la foi que à la fin de ce message, la vie de quelqu'un ne sera plus la même, la foi de quelqu'un ne sera plus la même, mais va augmenter, parce que nous allons nous rendre compte au travers de l'étude que nous allons faire que Dieu est un Dieu de grâce et que sa grâce est disponible à toute personne qui est vraiment prête à croire en lui, à recevoir son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, comme son Seigneur et Sauveur. Alors l'histoire dont nous allons faire l'étude tourne autour de la vie d'une femme. Cette femme s'appelle Ruth. Et nous savons que dans la Bible, nous trouvons deux livres qui portent des noms de femmes. Nous avons le livre d'Esther et nous avons le livre de Ruth. Esther était une juive qui avait épousé un païen. Et Ruth est une païenne qui va épouser un juif. Et dans l'histoire de Ruth, nous allons découvrir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Et j'ai la foi qu'à la fin de cette étude, la vie de quelqu'un sera guérie, restaurée et resplendissante d'une espérance nouvelle. Alors, le titre que le Seigneur m'a inspiré de donner à cet enseignement est le suivant. Ton futur sera plus beau que ton passé. Ton futur sera plus beau que ton passé. Donc je vais vous inviter à suivre avec moi, à entrer avec moi dans cette merveilleuse histoire que nous trouvons dans la vie de Ruth. Je vous invite dans le livre de Ruth, à partir du premier chapitre. Le livre de Ruth est un livre subdivisé en quatre chapitres. Et chacun des quatre chapitres porte une dimension importante, une certaine dimension de la foi. En sorte que, en parlant de Ruth, je peux aussi l'intituler Ruth ou les quatre étapes de la foi. Nous allons voir ces quatre étapes de la foi au fur et à mesure que nous évoluons dans l'étude de l'histoire de Ruth. Donc je vous invite dans Ruth chapitre 1 et je vais commencer à lire le premier verset. Alors Ruth chapitre 1, la Bible nous dit « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. » Alors, tout de suite, nous voyons que la Bible nous place dans une période historique pour nous parler de Ruth. Donc, cette histoire dont nous faisons l'étude se déroulait dans une période historique d'Israël qui s'appelait le temps des juges. Alors, qu'est-ce qui caractérisait le temps des juges? Je vais vous inviter dans Josué chapitre, Josué chapitre 24 à son verset 29. La Bible dit, après ces choses, Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Sérakh, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. La Bible nous dit ici qu'à la mort de Josué, les anciens qui avaient travaillé avec Josué avaient continué l'œuvre de l'Éternel. Mais nous allons découvrir que lorsque ces anciens aussi, leur temps viendra où ces anciens vont mourir, ils vont laisser derrière eux une génération qui n'a pas été formée. Alors je vous invite dans Juges chapitre 2 à son verset 10, nous voyons, la Bible dit, après la mort de Josué et après la mort des anciens qui ont travaillé avec Josué, Juges 2 verset 10 dit ceci, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Donc nous voyons que lorsque les anciens de Josué sont morts, ils n'ont pas entraîné une génération, ils n'ont pas entraîné leurs enfants pour que leurs enfants puissent recevoir cet héritage de la foi et continuer cette marche de foi en respectant les commandements de l'Éternel, avec l'Éternel. Donc, après leur mort, il y a eu cette génération qui ne connaissait pas du tout l'Éternel qui est arrivée. Donc, ils ont commencé à pécher devant l'Éternel, à faire devant l'Éternel tout ce qui pouvait susciter la colère de l'Éternel. Et lorsque nous lisons Juges chapitre 21 à son verset 25, le verset 25 nous dit ceci, « En ce temps-là, en parlant toujours du temps des juges, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Je ne sais pas si vous imaginez une nation dans laquelle chacun fait ce qui lui semble bon. Ça veut dire que quelqu'un peut se lever, aller tuer quelqu'un, prendre sa maison, prendre ses biens, et bon, personne ne lui dira rien du tout parce que bon, il a juste fait ce qui lui semblait bon. Et c'était dans cette période que Dieu va susciter cette belle histoire de Ruth. Mais en même temps, je voudrais préciser que le temps des juges était un temps dans l'histoire d'Israël qui était comme une période qui était comme une sorte de cercle vicieux. Parce que le peuple péchait, et à chaque fois que le peuple péchait, Dieu livrait le peuple à leurs ennemis. Leurs ennemis venaient les mettre en captivité. Ensuite, Dieu suscitait un juge pour les délivrer d'entre les mains de leurs ennemis. Et à chaque fois, c'était, comment dirais-je, la même chose qui se répétait. Le peuple pêche, il devient captif des ennemis. Dieu suscite un juge pour délivrer le peuple. Une fois que le peuple est délivré, il repêche encore, se retrouve encore en captivité. Dieu suscite un juge pour le délivrer. Une fois qu'il est délivré, il repêche encore, se retrouve en captivité. Et ça a été une sorte de cercle vicieux. Toute la période des juges était une période où vraiment le peuple de Dieu était incapable de marcher avec Dieu dans la droiture en respectant, la parole de Dieu. Et ce verset est assez étonnant comme nous venons de le voir. En ce temps-là, il n'y avait point de roi et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, comme Dieu a toujours la capacité de dégager de belles choses à partir de choses qui ne sont pas forcément réjouissantes, nous allons trouver au milieu de ce désordre national, au milieu de cette période tout à fait, désorganisée, cette très merveilleuse histoire de Ruth. Donc, Ruth chapitre 1 nous dit ceci, du temps des juges, et nous avons déjà une idée de ce que c'était que le temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Alors, tout de suite, je pourrais dire que le mot famine a un autre mot que je peux qualifier d'actuel. Lorsque vous rencontrez le mot famine dans la Bible, vous pouvez mettre un mot beaucoup plus moderne à la place, qui est tout simplement le mot récession. Je pense que le mot récession nous parle encore plus aujourd'hui, parce que sur les ondes, nous ne faisons qu'entendre parler de ce mot. Donc, cette histoire se passe dans une période de récession, c'est-à-dire une période qui est tout à fait comparable à celle que nous vivons aujourd'hui. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une récession dans le pays, ou une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors, nous allons, avant de continuer cette histoire, voir un peu la signification des noms que portent les différents personnages que nous trouvons dans cette histoire. Parce que, en hébreu, chaque nom a une signification, porte un sens particulier qui donne aussi une certaine dimension au rôle et à l'histoire dans laquelle se trouve ce personnage. Donc, la Bible dit que le mari de Naomi, alors, Ruth chapitre 1, verset 2, le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. C'est bon de savoir ce que signifie Élimélec. Alors, Élimélec est un nom, je peux dire, qu'on peut diviser en deux. Éli vient de la racine El, qui est le nom de Dieu. Et Melek, en hébreu, signifie roi. Donc, Éli, Melek signifie « mon Dieu est roi ». C'est un très beau prénom, Élimélec, qui signifie « mon Dieu est roi ». Et Naomi est un nom qui signifie, en hébreu, « douceur ». Naomi signifie « douceur ». Et la Bible nous dit que Élimélec et Naomi sont partis avec leurs deux fils. Et leurs deux fils s'appelaient, alors, Machlon et Kiljon. Et chose vraiment, comment dirais-je, étonnante. Machlon en hébreu signifie malade ou maladie. Et Kiljon signifie mourant ou défaite. C'est vraiment une intrigue. C'est assez mystérieux d'imaginer que des parents puissent appeler leurs enfants maladie et mourant. Donc, Élimélec et Naomi avaient deux garçons. L'un s'appelait Machlon, qui signifie maladie, et l'autre s'appelait Kiljon, qui signifie mourant. Alors j'imagine bien, quand l'heure de dîner arrive ou l'heure de déjeuner, j'imagine Élimélec et Naomi appeler « maladie et mourant, venez, on va manger. Maladie et mourant, préparez-vous, on va aller à l'école. Maladie et mourant, venez, on va sortir. » Maladie et mourant, nous savons tous que la signification du nom, des noms que nous portons, pèse toujours sur notre vie. Donc, ce n'est pas étonnant, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés au pays de Moab, d'abord Élimélec est mort, ensuite la Bible dit, Machlon et Kiljon, c'est-à-dire maladie et mourant, sont aussi morts. Bon, je peux être peut-être étonné de la mort d'Élimélec, Mais je ne pense pas que quelqu'un sera étonné de la mort de maladie et mourant. Parce que à force d'appeler quelqu'un maladie et mourant, c'est tout à fait naturel que la personne finisse dans la mort. Alors donc, ce que nous voulons, j'aimerais que nous puissions voir ici, c'est que cet homme qui était le responsable de sa famille, Élimélec, dont le nom signifie « Mon Dieu est roi », a quitté Bethléem. Et Bethléem en hébreu signifie « la maison du pain », parce qu'il y avait la famine. Donc, Élimélec a quitté la maison du pain parce qu'il n'y avait pas de pain. Il portait un nom dont il n'a pas voulu vivre la signification, parce que en pleine famine, comme il s'appelait « Mon Dieu est roi », il aurait pu faire de son Dieu son roi en plein milieu de la crise. Une des leçons que nous pouvons voir dégager de ce texte, c'est que quelle que soit la récession, tu peux faire de ton Dieu ton roi au milieu de la récession. Parce que Bethléem signifie la maison du pain, et si le pain venait à manquer dans la maison du pain, il faut avoir cette foi qu'un jour le pain reviendra dans la maison du pain, puisque c'est la maison du pain. Mais il s'est trouvé que Élimélec a pris sa famille et est parti. Et ils sont partis où? Ils sont partis, la Bible dit, dans le pays de Moab. Avant que nous puissions parler de Moab, je voudrais rester un peu au niveau de la récession, de la famine qui a provoqué le départ de Élimélec et de toute sa famille. Il n'y a rien de mal à déménager parce qu'il y a une crise, une récession ou une famine. C'est une réaction tout à fait normale et tout à fait humaine. Mais la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de prendre toute décision, nous devons d'abord demander si c'est la volonté de notre Dieu. Parce que 2 Corinthiens chapitre 5 à son verset 7 dit ceci: nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ou autrement dit, nous ne marchons pas par les circonstances, mais nous marchons selon ce que la parole de Dieu dit. Et de ce point de vue, Élimélec a commis une erreur. Il aurait dû faire de son Dieu son roi au milieu de la famine. Mais il a quitté la famine, il est parti sans demander la volonté de Dieu. Ensuite, ce que nous devons aussi comprendre par là, c'est que lorsque nous étudions la parole de Dieu, le plus souvent, Dieu suscite la crise pour bénir ses enfants. En pleine crise, en pleine récession, le monde peut crier « crise, manque, récession », mais l'Église doit toujours dire « prospérité ». Parce que lorsque nous prenons les différentes famines qui sont arrivées dans la parole de Dieu, nous verrons que c'est pendant cette période de crise, justement, que Dieu a béni ses enfants. Donc, la récession peut venir, mais si nous sommes les enfants de Dieu, la récession représente pour nous une formidable occasion d'expérimenter la prospérité et la bénédiction de Dieu. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 26, vous verrez dans ce texte que la Bible dit « Isaac était chez des Philistins et la famine ou la récession s'est déclenchée dans le pays des Philistins. » Et donc, tout le monde a commencé à déménager pour aller vers l'Égypte. Et lorsque Isaac aussi voulait prendre sa famille et déménager, Dieu lui a dit « Je veux que tu restes dans la famine. » Et la Bible dit « Isaac a semé dans la famine et dans la même année, il a récolté 100 fois plus. Et Dieu a commencé à le prospérer. Dieu a commencé à l'enrichir. Il est arrivé à un niveau de richesse tellement élevé que même le roi du pays était devenu jaloux de lui. Mais comment Isaac a eu sa prospérité? C'était en plein milieu de la récession. Je prie dans le nom de Jésus, pendant que le monde crie récession, que toi tu cries prospérité. Je prie dans le nom de Jésus, pendant que le monde crie manque, que les enfants de Dieu crient abondance. Je prie dans le nom de Jésus, pendant que le monde dit nous portons des fardeaux, nous ne savons pas comment nous en sortir, que les enfants de Dieu disent venez avec nous, parce que notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Dieu a toujours béni pendant la crise. Dieu ne veut pas te frapper pendant la crise, mais il va utiliser. Quel témoignage peux-tu avoir en tant qu'enfant de Dieu si Dieu te bénit parce que tout va bien? Ce n'est pas un témoignage. Non, c'est pendant que tout va mal que tout va bien aller avec toi. Et les gens vont dire, mais comment se fait-il que toi, tu ne souffres pas autant que nous? Alors, tu vas leur parler de ton Dieu. Donc, Élimélec est parti avec sa famille et ils sont arrivés au pays de Moab. Alors, Moab, ou les Moabites dont on parle dans la Bible, nous allons essayer de voir d'où vient ce nom et ce que représente ce territoire dans lequel Élimélec a emmené sa famille. Nous voyons que arrivé dans ce territoire, malheureusement, Élimélec est mort et ses deux garçons aussi sont morts. Et Naomi est restée toute seule. Pour savoir qui est Moab et comprendre qui sont les Moabites, je vais vous inviter dans le livre de Genèse. Alors, Genèse chapitre 19 à son verset 30, nous allons découvrir l'origine des Moabites. Genèse chapitre 19 à son verset 30. Alors, je lis, la Bible dit, Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ammi. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Donc, nous voyons que les Moabites et les Ammonites, et dans l'histoire de Ruth, nous faisons surtout face aux Moabites, puisque cette famille est partie dans le pays de Moab. Les Moabites sont une descendance. Ruth elle-même, qui est Moabite, est une descendance d'une relation incestueuse qu'il y a eu entre Lot et sa fille. Donc, Ruth elle-même est une descendance maudite. Nous allons lire, lorsque nous allons dans Deutéronome chapitre 23, à son verset 3, que à la suite de cette relation incestueuse que Lot a eue avec ses filles, Dieu a maudit la descendance de... Dieu a maudit Ammon et Moab et leur descendance. Donc, lorsque nous lisons Deutéronome verset 23 à son verset 3, nous allons voir ce que Dieu dit. La Bible dit, « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. » C'est très important pour moi que nous puissions recevoir ce verset. Parce que Ruth est d'une descendance maudite. Ruth est Moabite. La Bible dit que les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël à perpétuité. À perpétuité, ça, c'est une sorte de malédiction éternelle. C'est-à-dire, jamais il n'arrivera qu'on voit un Moabite ou une Moabite dans l'assemblée d'Israël. Maintenant, retournons dans Ruth chapitre 1. Donc, Élimélec, à cause de la famine, a quitté Bethléem, qui est une terre de bénédiction, pour aller s'installer avec sa famille à Moab, qui est une terre de malédiction. Il vaut mieux souffrir dans un endroit où il y a la bénédiction que de chercher à être heureux dans un endroit où il y a la malédiction. Je répète, c'est mieux de souffrir là où il y a la bénédiction plutôt que de chercher le bonheur là où il y a la malédiction. Parce que la Bible nous dit, arrivé dans le pays de Moab, Élimélec est mort et ses deux fils sont morts. Ses deux fils, Machlon et Kiljon, arrivés dans le pays de Moab, ont épousé des Moabites. Ce qui, déjà, va à l'encontre de la loi de Dieu, puisque nous venons de lire que Dieu a dit que les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël. Donc, ils ont épousé des Moabites. L'un a épousé une femme, justement, qui s'appelle Ruth. Le nom Ruth signifie, deux mots particuliers. C'est un nom qui signifie beauté et ami. Beauté et ami. Donc, quand vous mettez les deux ensemble, Ruth signifie belle amie. Et le nom de la femme du deuxième fils est Orpa. Et Orpa signifie nuque ou le dos. Et évidemment, nous allons voir dans la suite de cette histoire que Orpa va montrer sa nuque ou son dos à sa belle-mère Naomi lorsque le temps va arriver où Naomi va décider de retourner à Bethléem. Donc, nous allons continuer notre étude, Ruth chapitre 1, verset 6. Puis elle se leva, parlant de Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Vous voyez que quand vous êtes dans la place de la bénédiction, même s'il y a manque, l'abondance finit toujours par arriver. Ils avaient quitté Bethléem parce qu'il n'y avait pas de pain pour aller dans le pays de la malédiction Moab. Et arrivé dans ce pays, la Bible dit, après que son mari et ses deux fils soient morts, la Bible dit que Naomi a appris que Dieu a encore visité Bethléem et que le pain est revenu dans la maison du pain. Je prie dans le nom de Jésus que ce qui te manque revienne dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu d'Israël, qui n'oublie pas son peuple et qui n'oublie pas ses enfants, te visite encore dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, Naomi a appris que Dieu a visité Bethléem, a décidé de retourner au milieu de son peuple. Ruth chapitre 1, verset 7. Nous voyons que Naomi est restée seule maintenant. Elle n'a plus son mari, elle n'a plus ses deux fils. Elle s'est retrouvée seule avec les femmes de ses deux fils, c'est-à-dire Ruth et Orpa, avec ses deux belles-filles. Et la Bible dit, elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Vous voyez, Naomi dit « La main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Mais en fait, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité, parce que ce n'est pas l'Éternel qui leur avait dit de quitter Bethléem. Parfois, nous prenons des décisions sans consulter l'Éternel. Et lorsque nous rencontrons le malheur, nous disons non, que c'est la main de l'Éternel qui s'est étendue contre nous. Non, nous devons toujours chercher d'abord la volonté de l'Éternel avant de nous engager dans quelque décision que ce soit. Donc verset 14, la Bible dit, « Les deux belles-filles de Naomi élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et Orpa, qui signifie dos ou nuque, baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. » Orpa est retournée auprès de sa famille, mais Ruth a décidé de s'attacher à Naomi. Verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Verset 16. Ruth répondit. Et j'aime bien cette parole, cette confession que Ruth va faire à Naomi. C'est la même confession que nous devons faire au Dieu d'Israël. Je rappelle ici que Naomi est l'image d'Israël et que Ruth est l'image de l'Église, une païenne qui a décidé de s'attacher à Israël. Parce que l'Église est composée de gens qui sont venus de nations païennes et qui ont décidé de se greffer à Israël. Donc, Ruth va dire ce discours extraordinaire à Naomi que j'utilise souvent lorsque je fais des mariages. J'aime bien que les mariés puissent faire cette confession. Parce que pour moi, ce n'est pas une simple confession, ce sont des paroles d'alliance. Et nous devons confesser ces mêmes paroles devant Jésus-Christ. Alors, Ruth va dire à Naomi, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Ça, c'est une confession extraordinaire. que le Dieu de Jésus soit notre Dieu. Où Jésus ira, nous irons. Où il demeurera, nous demeurerons. Tout ce qu'il fera, nous resterons toujours attachés à lui. Vous voyez, quand Ruth a prononcé ces paroles, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Lorsque Ruth a dit ces paroles à Naomi, pour moi, c'est comme une confession, c'est comme une prière du salut. C'est comme une prière du salut, une prière du salut que Ruth venait de faire. En faisant cette confession, elle était en train de dire, à partir d'aujourd'hui, je m'attache au Dieu d'Israël. À partir d'aujourd'hui, je m'attache à ce Dieu, je vais marcher avec ce Dieu, je vais rentrer, j'ai foi dans ce Dieu, je vais aller avec ce Dieu, je vais croire dans ce Dieu, je vais te suivre Naomi, parce que j'ai confiance au Dieu d'Israël à travers toi. Cette prière que Ruth a faite, qui est une très belle confession, va toucher le cœur de Dieu. Exactement comme quand nous confessons, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, je reconnais que je suis pécheur, que tu es venu sur cette terre, tu es mort et ressuscité pour moi, je t'accepte dans ma vie, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur, à partir d'aujourd'hui, sois le berger de ma vie. Amen. Lorsque nous faisons cette parole, cette confession, ces paroles touchent le cœur de Dieu. Et nous allons voir comment la vie de Ruth va changer juste à partir de cette confession. C'est une confession qui est tellement belle que j'aimerais la reprendre encore. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Alors, ce qui me surprend quand je lis cette confession de Ruth, je me suis dit, lorsqu'on voit la vie de Naomi n'est pas une vie qui peut vraiment inspirer dans le bon sens. Parce que Naomi est une femme qui a perdu son mari et qui a perdu ses deux fils. Vous voyez? Donc, communément, dans la communauté dans laquelle nous vivons, on dira facilement... Oh, faites attention à cette femme, hein. Il y a la poisse qui la suit, vous savez, bizarrement. Les gens iront même jusqu'à dire, ah ben vous savez, c'est elle qui a mangé son mari et qui a mangé aussi, ses enfants. Les gens diraient n'importe quoi en parlant de Naomi. Mais ce qui est curieux, c'est que la vie de Naomi semblait être une vie de défaite. Mais malgré cela, Ruth a choisi de s'attacher à Naomi. Vous savez, vous pouvez échouer dans votre vie. Vous pouvez avoir tout raté dans votre vie. Vous pouvez même être déçu, désespéré parce que vous avez échoué et pourtant vous ne savez pas à quel point vous êtes une inspiration pour quelqu'un qui vous admire. Je répète, vous pouvez avoir échoué dans votre vie et quand même être une source d'inspiration pour quelqu'un qui vous a admiré. Ne serait-ce qu'à cause de votre courage. Ne serait-ce qu'à cause de votre foi. Ne serait-ce parce que vous êtes quelqu'un qui avait toujours agi par la foi dans le Seigneur Jésus. Même si ce que vous avez fait, même si ce que vous avez essayé, même si toutes les batailles que vous avez eues dans la vie ne vous ont pas amené au succès, je suis venu vous dire aujourd'hui que vous êtes une inspiration pour le courage de quelqu'un. Et que ce que vous avez fait comme effort a abouti certainement à un échec, mais en Dieu, il n'y a pas de défaite. Et nous allons voir que Naomi était arrivée à un niveau où sa vie ressemblait à une défaite, mais le Dieu d'Israël va transformer sa défaite en victoire, de la même manière que je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu va transformer tes défaites dans une grande victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la Bible dit que lorsque Ruth a fait cette merveilleuse confession à Naomi, la Bible dit ceci, verset 18, « Naomi la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. » Vous voyez, dans ce premier chapitre de Ruth, nous voyons ce que j'appelle la première étape de la foi. Numéro un, c'est la foi qui part sans savoir où elle va. Exactement comme Hébreux 11 dit d'Abraham en disant qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Vous voyez, la foi croit avant de voir. Mais le doute veut voir avant de croire. Lorsqu'on a la foi, on croit avant de voir. On ne cherche pas à voir avant de croire. Abraham est parti sans savoir où il allait. Mais comme il est parti à cause de ce que Dieu lui a dit, il est arrivé à un niveau où Dieu lui a donné tout un pays. Nous voyons un peu la foi de Ruth qui a choisi de quitter Moab en s'attachant à Naomi et partir à Bethléem, un endroit qu'elle ne connaît pas, un pays qu'elle ne connaissait pas. Mais la foi qu'elle avait dans son cœur était tellement grande qu'elle est partie sans savoir où elle allait. Donc la première étape de la foi que nous voyons ici, c'est la foi qui part sans savoir où elle va. Et pourquoi Ruth avait une telle, comment dirais-je, une telle foi dans le Dieu de Naomi? Parce que Ruth a entendu l'évangile. Naomi a certainement dû parler à Ruth des exploits du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Naomi a dû raconter la puissance du Dieu d'Israël à Ruth. Et Ruth est tombée amoureuse de ce Dieu-là. Et elle s'est dit, non, je ne resterai pas ici. Quelqu'un doit se dire, je ne resterai pas ici. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion pour toi aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu restes dans ton incrédulité. Parce que Ruth a décidé, non, je ne resterai pas ici, je vais aller avec toi parce que moi aussi, je veux rencontrer ce grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, je t'invite à la rencontre de ce Dieu. Si tu es prête à faire avec moi cette prière, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es venu sur cette terre mourir pour mes péchés. Aujourd'hui, vous voyez, la Bible dit que Naomi, voyant que Ruth était décidée, la foi est une décision. Tu peux le dire et le faire aussi. Aujourd'hui, je décide, Seigneur Jésus-Christ, de te recevoir dans ma vie, dans mon cœur, comme mon Seigneur et Sauveur, à partir d'aujourd'hui. Que ma vie soit dans tes mains, soit le berger de ma vie. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi et sincérité, alors ce qui va arriver à Ruth va t'arriver aussi, au nom de Jésus-Christ. Donc la Bible dit, lorsque nous voyons Ruth, chapitre 1, à partir du verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. » Parce que Naomi signifie douceur, et Mara signifie amertume. C'est de Mara que vient le prénom Marie. Et Naomi dit, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le Tout-Puissant ne l'a pas rempli d'amertume. C'est parce qu'ils ont pris eux-mêmes une décision qui finalement les a remplis d'amertume. Le Tout-Puissant ne veut pas te remplir d'amertume. Le Tout-Puissant veut te remplir de bénédiction et de satisfaction. Verset 21. Naomi dit,
J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Non, ce n'est pas le Tout-Puissant qui t'a affligé. Verset 22. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alors ce que j'aime bien ici, c'est que elles sont arrivées au commencement de la moisson. Elles ne sont pas arrivées au commencement de la semence. Elles sont arrivées au commencement de la moisson. Elles sont arrivées dans la période de la récolte. Elles sont arrivées dans la période de la moisson. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que lorsque vous décidez d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, lorsque vous faites une confession aussi belle que celle que Ruth a faite à Naomi, automatiquement, le Seigneur vous fait arriver dans une moisson. Parce que dans la moisson, vous ne venez pas pour semer, vous venez pour récolter. Et là, nous allons voir comment Dieu va bénir Ruth. Parce que Ruth va commencer à récolter, à moissonner des choses qu'elle n'a pas semées, mais tout simplement parce qu'elle a décidé que le Dieu d'Israël sera son Dieu. Le Dieu d'Israël va retourner sa vie et la malédiction dont elle est sortie va devenir bénédiction. Qui vous dit que Dieu n'est pas un Dieu de bénédiction? Qui vous dit que Dieu ne peut pas briser la malédiction? Nous voyons dans la vie de Ruth que Ruth n'avait pas le droit d'entrer dans l'assemblée d'Israël. Parce qu'il y avait sur elle cette malédiction. Parce qu'elle descendait d'une descendance maudite à cause de la relation que Lot a eue avec ses filles. Et Dieu lui-même, dans sa loi, a dit non, les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël. Mais Dieu n'est pas un Dieu de loi. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu t'aime à un point tel qu'il est capable de changer sa loi juste pour te bénir. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, pour clôturer le chapitre numéro 1, non, Dieu ne te juge pas. Non, Dieu ne te condamne pas. Dieu dit, si tu as foi en moi, je vais briser la malédiction dans ta vie. Vous savez, la malédiction, c'est vrai, on parle de malédiction de génération. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de malédiction de génération. Dieu est un Dieu de bénédiction de génération. Si tu vis ta foi avec le sentiment que tu es maudit ou maudite, que tes parents ont fait des choses et qu'à cause de ça, tu ne seras jamais heureux, donc détrompe-toi. Parce que s'il y a quelqu'un qui ne mérite pas d'être béni dans la Bible, c'est Ruth. Mais Dieu va changer la loi pour Ruth. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Dieu est un Dieu de grâce. Si tu décides de suivre son Fils Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre étude dans la prochaine série. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie aujourd'hui. Toi qui es le Dieu qui retourne les situations. Toi qui es le Dieu qui change le mal en bien. Toi qui es le Dieu puissant. Le Dieu vivant, le Dieu qui restaure. Merci de ce que tu étends tes mains visibles, Seigneur, sur tes enfants. Quelle que soit, Seigneur, la malédiction qui agit dans leur vie jusqu'à maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens à l'encontre de cette malédiction. Et j'ai la foi que cette malédiction est brisée de la même manière que tu l'as brisée sur la vie de Ruth. Au nom de Jésus-Christ.